CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE aujourd'hui. Autour de la table, Monique Couteau qui va nous parler de la transformation du quartier du Gros Chêne.
Oui, qui va vous rendre compte de la réunion publique, semi-publique, on va voir, je vous expliquerai ça, qui a eu lieu sur ce sujet.
Suivi de Jean-Aubert Dufaux, Vivre avec les loups, un film documentaire de Jean-Michel Bertrand. Tu n'es pas venu seul, mais accompagné de Bertrand Sicard.
Bonjour Jonathan, Bertrand Sicard ne va pas tarder à nous rejoindre sur ce plateau. Donc une chronique sous forme d'interview ce matin, dont la portée va au-delà de l'information locale, mais quoique.
Donc à noter que Bertrand Sicard est président du FERUS, dont l'association est partenaire du film de Jean-Michel Bertrand.
Sera suivi d'Alain Defrémont. Cette fois-ci, Alain va nous lire un texte de Mohamed Redouane, journaliste.
Oui, c'est Mohamed Redouane, est un journaliste algérien et nous allons revenir sur ce que nous a livré Pauline Santiago la semaine dernière sur le Tché.
Et enfin, on terminera l'émission avec à portée de parole va être introduite par Monique Couteau qui reçoit Marc Salin de l'association SNL.
Voilà, Marc nous parlera de son association et de son action sur Chaville et des besoins de l'association.
Tout de suite, dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, quels sont les enjeux de ces projets? Par qui la réunion était-elle animée?
Alors, avant de répondre à cette question, je voulais dire que cette réunion avait été convoquée par lettre individuelle aux habitants des tours 1 et 3 rue du Gros Chêne et au bâtiment du 50 rue de la Passerelle. Nous n'y avions pas été invités en tant que conseillers municipaux d'opposition, contrairement visiblement à plusieurs conseillers de la majorité, mais nous y étions, bien sûr. Alors, les enjeux de ces projets. Donc la réunion elle-même était animée par le maire de Chaville pour l'introduction, mais surtout par le directeur général de Haute-Seine Habitat et deux autres responsables, la directrice générale adjointe chargée du pôle patrimoine et cadre de vie et la directrice de l'accompagnement social et solidaire. Le projet concerne donc les deux tours qui ont été construites en 1976, qui comprennent 287 logements, et les bâtiments du 50 rue de la Passerelle, construits en 1933 et comprenant 52 logements sociaux. Pour les tours, le projet est un projet de réhabilitation. Pour le 50 rue de la Passerelle, de démolition-reconstruction. Les objectifs affichés, l'amélioration de l'habitat, l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des espaces extérieurs, l'introduction de plus de mixité dans le quartier et l'ouverture du quartier à la ville environnante.
Quelle justification au traitement différencié pour les deux ensembles?
Alors pour les tours, le constat est fait de logements qualitatifs et lumineux, de beaux volumes et l'absence de problèmes structurels. La réhabilitation est possible pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et l'impact carbone est moindre qu'une destruction-reconstruction. Pour la passerelle, des logements petits, mal isolés, des bâtiments enclavés à l'accès difficile, une réhabilitation compliquée, c'est du moins les justifications qui nous ont été données et qui ont procédé à ces choix.
Alors comment ça se passe concrètement là, dans ce genre de chantier?
Alors,
On
a un calendrier. Pour les tours, une mission de diagnostic et de faisabilité sera pilotée par une équipe d'architectes et d'ingénieurs, donc le cabinet Ubic Architecture, ITEC Bureau d'études et Adam Structure qui en sont chargés, avec pour objectif de vérifier la possibilité de réhabiliter les tours, soit en milieu occupé, soit semi-occupé, soit vide, ce qui a des conséquences différentes pour les habitants, en particulier, évidemment, la question du relogement éventuel pendant les travaux, s'il faut en partie vider les appartements. Mais il faudra aussi un projet pour les espaces extérieurs. L'autre objectif est d'étudier la possibilité d'introduire de nouveaux types de logements ou d'activités dans les tours. Sur cette question, pas d'indication précise à ce jour. Ce sera un aspect à suivre particulièrement. À la suite de cette étude, il y aura désignation d'un architecte pour concevoir et mettre en œuvre le projet. Pour le 50 rue de la Paracerelle, il faut d'abord obtenir la validation par les services de l'État pour la destruction, puis entamer une enquête sociale individualisée avec les habitants pour la procédure de relogement, puis réaliser tous les diagnostics préalables à la démolition, et après relogement, on entame la démolition. Pour associer les habitants, un processus de concertation est mis en place avec une agence spécialisée qui organise 3 ateliers en février et mars. Un premier intitulé « Mon logement idéal », un second « Ma résidence et ses parties communes » et un troisième « Mon cadre de vie et les espaces extérieurs ». On peut regretter qu'il n'y ait pas d'atelier spécifique sur le logement pour la passerelle, car les problèmes sont très différents entre réhabilitation et reconstruction. Le calendrier février, donc les ateliers, mars, désignation de l'équipe d'architectes urbanistes pour l'étude urbaine, avant l'été 2024, validation d'un plan directeur pour le projet urbain dans son ensemble et réunion d'informations à l'ensemble des habitants.
Alors on peut facilement imaginer les questions que se posent les habitants sur le logement, sur les loyers, sur le type de logements sociaux demain, sur la possibilité de rester sur Chaville. Pendant la période transitoire, Haute-Seine Habitat a-t-il pris des engagements ?
Alors oui, surtout en ce qui concerne les habitants de la passerelle, la réalisation d'une étude personnalisée de chaque ménage pour proposer un logement adapté à la composition de la famille, aux ressources et aux besoins du foyer. Un relogement sur le patrimoine de Haute-Seine Habitat si c'est la demande du locataire. La proposition d'un logement compatible avec les possibilités financières et la composition familiale. Un accompagnement personnalisé en cas de handicap, par exemple, en mobilisant si nécessaire une entreprise spécialisée. Et l'organisation des déménagements avec prise en charge des frais d'abonnement téléphonique, internet, gaz et électricité et des appareils de cuisson. D'autre part, il faut quand même savoir que Haute-Seine Habitat a l'obligation de reconstruire les pourcentages existants de types de logements sociaux, hein, par exemple, tant tel pourcentage de PLAI.
Merci beaucoup Monique Couteau pour ce compte rendu. Un chantier important que nous continuerons à suivre de très près et nous serons particulièrement attentifs aux souhaits des habitants concernés mais aussi aux structures collectives qui seront proposées, voire au maintien de celles existantes.
Je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter que la proposition de Gabriel Attal d'intégrer les logements intermédiaires dans le calcul du pourcentage de logements sociaux imposé par la loi SRU est une mesure profondément antisociale et totalement hors sol par rapport au problème du logement. La loi SRU a son efficacité. La moitié des HLM construits ces 20 dernières années l'ont été dans ce cadre. Mais on sait aussi combien beaucoup de communes se sont exonérées de cette obligation et combien les sanctions financières n'ont jamais été suffisamment dissuasives. 9 communes des Hauts-de-Seine viennent d'être épinglées par la préfecture. Demain, en faisant cette proposition, le gouvernement offre un boulevard à toutes les communes qui ne veulent pas assumer la mixité sociale. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans une future chronique.
Merci beaucoup Monique Couteau. Tout de suite, on passe à la chronique de Jean-Aubert Dufaux.
Terre à terre avec Jean-Aubert Dufaux.
Notre invité est bien installé. Jean-Aubert, c'est à toi.
Et bonjour Bertrand Sicard.
Bonjour.
Alors la projection de vendredi dernier, elle a connu un certain succès et on ne peut que s'en féliciter. Donc peux-tu te présenter pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu la chance d'assister à la projection ?
Écoutez, moi je suis Bertrand Sicard, je suis le président de l'association Férus. C'est une des premières associations de défense des grands prédateurs en France, ours ou lynx. Voilà, une association qui a maintenant, qui est née en 94, hein, donc elle n'est pas toute jeune. Voilà, on a une longue expérience derrière nous et puis on a une certaine spécificité, c'est qu'on aime les actions de terrain, voilà. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, on est une association qui voulons être systématiquement force de proposition. Et pas seulement rester dans le Yaka Faucon.
Alors, tu n'es pas à proprement parler chavillois, mais mes voisins, puisque tu habites Viroflay.
Bah, on n'a pas que des qualités.
Oui. Peux-tu nous dire en quelques mots ce qui t'a amené à t'investir dans ce combat pour la défense des grands prédateurs européens ?
Alors là, ça c'est une grande question. D'abord, j'ai toujours été passionné de nature. Voilà. Et puis, j'ai trouvé que dans les années 93, enfin vous savez que le loup est revenu naturellement d'Italie par la porte des Alpes, hein, et j'ai trouvé que les associations défendaient très mal le loup, donc je me suis dit il faut que je m'engage, et je me suis engagé à l'époque au groupe Loup France, qui est devenu après Férus. Et ensuite, j'ai passé pas mal de temps pour y être président aujourd'hui. Alors, cela étant dit, pourquoi défendre le loup ? Parce qu'en fait, c'est ça le sujet, et les grands prédateurs plus en général. Déjà, le loup, c'est un animal qui appartient à notre patrimoine biologique, naturellement, mais aussi culturel. Il faut savoir que le loup a disparu il n'y a pas très longtemps de France, hein, pratiquement quelques temps avant-guerre, qu'il est présent dans toute la toponymie, qu'il a marqué tous les esprits en bien et surtout en mal, parce qu'il a eu beaucoup de mal à traverser le Moyen-Âge pour de multiples raisons. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui. Des arguments plus rationnels, le loup, c'est une espèce chapeau. On a une chance extraordinaire. Il faut savoir qu'en France, on a un biotope très riche, hein, en particulier en cervidés. Et le loup arrive à progresser en France, souvent en silence, parce qu'il se nourrit principalement sur des proies sauvages. Et à l'heure où aujourd'hui, on dit qu'on a un peu trop de sangliers, peut-être dans certaines forêts un peu trop de cervidés, et ben le loup va émettre de l'ordre dans tout ça. En étant espèce chapeau, il va amener l'harmonie dans ce qu'on appelle la pyramide écologique.
Alors pour revenir un petit peu au film, dans ce film documentaire, Jean-Michel Bertrand met l'accent sur les interactions humaines et il est question du programme d'éco-bénévolat Pastoral Loup que le Férus a mis en place. Et qui, en plus d'être une aide pour les bergers, est aussi un moment de rencontre humaine qui permet de lever des barrières entre le monde rural et le monde citadin. Alors, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce programme ?
Alors, ce programme, il est né pratiquement en même temps que Férus, puisque le fondateur de Férus était un fils d'éleveur. Et il a tout de suite compris que si on voulait pouvoir accepter le loup en France, il fallait qu'on le fasse accepter par le monde de l'élevage. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté très rapidement ce qu'on appelle de l'éco-bénévolat, c'est-à-dire que des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, hein, puissent aller aider les éleveurs volontaires pour les aider à protéger leurs troupeaux. Vous savez qu'une bête, c'est comme nous, hein, ça vit jour et nuit. Les bergers sont très actifs le jour, mais la nuit beaucoup moins. Par contre, les bêtes sauvages, elles sont très actives la nuit. Donc elles ont tendance à attaquer les troupeaux la nuit. Donc nous, on met d'ailleurs à disposition des éco-bénévoles qui vont tourner la nuit pour aider à protéger le troupeau, sachant que la présence humaine fait partie du triptyque de la défense des troupeaux, qui est le berger, principalement, les chiens de protection et les parcs de contention la nuit. Voilà.
Alors, donc, est-ce que tout le monde peut participer en fait à ce programme ?
Alors, tout à fait, hein, c'est ouvert à tout le monde. Alors, il faut juste avoir un petit peu de conditions physiques et un peu de courage, parce que il arrive qu'on se retrouve seul en alpage, avec parfois on a des très gros troupeaux en France, hein, malheureusement, de 500, 1000 bêtes, 1500 bêtes. Nos éco-bénévoles se retrouvent sous une tente à garder la nuit, alors parfois la journée aussi. Hein. Donc voilà, il faut avoir un minimum de forme physique et puis un peu de courage, mais c'est une expérience extraordinaire, inoubliable, et comme vous le disiez, on a à peu près dans le profil des éco-bénévoles, c'est 50% de jeunes, 50% de retraités, hein, souvent des retraités qui sont très en forme, mais on a une grande majorité qui viennent de la ville, donc c'est extraordinaire de mettre en contact des gens de la ville qui ont parfois connaissent pas grand chose forcément de la nature, mais par contre ils ont des convictions, et d'aller les mettre au contact des éleveurs et des bergers, écoutez, c'est une richesse inouïe. Et je ne vous cacherai pas qu'on a même eu des mariages entre éco-bénévoles et bergers. Voilà. Donc ce que je vous dis, c'est vrai. Mais parfois il y a parfois des clashs, c'est vrai, mais ça permet je dirais à un certain nombre, ce qu'on pourrait appeler des écolos, d'aller se confronter avec la réalité, et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. En tout cas, c'est très très riche comme rencontre, et en général les bergers sont très contents, très satisfaits.
Et on doit s'attendre à quoi quand justement on va être de garde pour défendre un troupeau? Vous dites qu'on est seul dans une tente. Est-ce que la présence humaine suffit déjà à éloigner les loups, ou est-ce que quand même il faut faire quelque chose en particulier?
Alors grandement. Il faut savoir que la présence humaine, les loups ont un très bon odorat.
Voilà.
Dès qu'ils sentent la présence humaine, ils ont tendance à plus venir.
C'est ça.
Alors, c'est d'autant plus vrai dans les zones de recolonisation, hein, parce que, si vous voulez, en France, aujourd'hui, on a à peu près 1000 loups. Hein, on n'est pas compté un par un. Ils sont 80% dans les Alpes. Là, ils sont en meute. Hein, Et en général, lorsqu'ils sont en meute, ils sont un peu plus culottés parce qu'ils sont bien installés sur le territoire, ils connaissent bien leur terrain.
Il y a une stratégie.
Donc parfois, il faut, la personne humaine ne suffit pas, il faut les chiens en général. Mais dans des zones de recolonisation, souvent nous on intervient dans les zones de recolonisation parce que c'est là où les éleveurs sont plus en difficulté, ils sont pris de court.
Oui.
Donc nous on essaye d'intervenir très rapidement. Et la présence humaine, souvent l'année dernière, juste pour vous dire, on a eu 150 éco-bénévoles. On a travaillé avec 20 éleveurs, on a dû avoir 2 attaques, pas plus.
Ah oui, oui, oui.
Voilà. Donc rien que le fait d'être présent, le loup, il vient pas.
Et alors, question très innocente, pourquoi on met pas juste des chiens ?
Alors pourquoi on met pas juste des chiens ? Parce que les chiens, le chien seul, vous savez, le chien c'est un grand canidé, oui. Et c'est comme votre chien domestique en particulier. Enfin le loup aussi c'est un grand canidé et il a souvent besoin du berger pour l'aider à être, je dirais, plus défensif.
D'accord.
Alors on peut, il y a beaucoup de bergers qui laissent des chiens tout seuls avec les troupeaux, mais qui font souvent un travail remarquable. Mmh. On a Jean-Marc Lambry en Suisse là il a près de 600 heures de films d'attaque de loups sur des troupeaux. On a des très belles images de chiens qui font un travail énorme. Toute la nuit, ils courent après le loup pour l'empêcher d'attraper.
D'accord.
Mais bon, il vaut mieux qu'il y ait aussi un berger. Mais en général, les chiens, la nuit, le berger dort et les chiens font le boulot la nuit. Hein.
D'accord.
Donc c'est voilà. Mais
c'est
en tout
complémentaire.
Cas, c'est complémentaire, mais ça n'empêche pas qu'en France, on n'a pas atteint encore l'optimum de la défense parce que c'est compliqué, c'est un jeu. Les chiens, il faut déligner de chiens, on n'a pas encore la bonne sélection de chiens en France. Hein. On a perdu la culture de la protection. Voilà, donc il faut la retrouver, ça va prendre du temps. Maintenant, il y a des éleveurs et des bergers qui se débrouillent très bien avec leurs chiens les loups généralement attaquent, mais ils échouent dans leur attaque. Hein. Voilà, c'est donc.
En tout cas, nous mettrons en lien dans la description l'ensemble des informations au cas où certains de nos amis chavillois seraient partants pour participer à cette belle aventure.
Alors, il faut aller sur le site de Férus, F-E-R-U-S. Hein, il est très riche, très très riche. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actualités et vous allez trouver comment devenir éco-bénévole. Voilà. Alors, sachez seulement, c'est que les places sont très chères. Malheureusement, on a une espèce d'omerta des syndicats agricoles qui veulent nous empêcher de développer ce programme. Parce que un éleveur qui prend un éco-bénévole chez Férus, il est catalogué pro-loup.
Oui, bien sûr.
Donc voilà. Malheureusement, en France, on est dans la posture dans beaucoup de domaines. C'est dramatique. Enfin, moi qui défends la nature depuis 25 ans, 30 ans, je me rends compte que ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est dommage parce que, par exemple, on a développé récemment, vous savez que le Jura, c'est une nouvelle zone de colonisation. Il y a aujourd'hui 2-3 meutes, il y en a peut-être un peu plus, mais ça, on ne le dira pas. Mais le loup est venu s'installer il y a quelques années, et c'est une zone de AOC du comté, avec principalement des vaches laitières. Et le loup, dû à l'évolution des techniques d'élevage, dû à, je veux dire, un peu une forme d'industrialisation de l'agriculture, les génisses et les veaux sont laissés à part et les loups tapent dedans régulièrement. Bon, peu importe. Le sujet, c'est que on a réussi à former 80 éco-bénévoles locaux qui ont accepté de venir protéger les troupeaux de leurs voisins. Ça, c'est extraordinaire. L'agriculteur, il croise son voisin qui lui dit « Mais moi, je vais venir t'aider. » Voilà. Et ça a très bien fonctionné, à tel point qu'on a évité une tuerie parce que l'État allait auxir toutes les meutes et il voulait déterminer la zone du AOC comté en zone de non-protégeabilité, c'est-à-dire que un loup qui rentre, il est buté tout de suite. Et ça, c'est grâce à notre programme de pastoral loup.
Super.
On a réussi à s'imposer. On a eu des éleveurs qui nous ont reçus parce qu'on a monté 2 stages. Voilà. Et on espère pouvoir faire ça dans d'autres zones de colonisation en France. Et voilà. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est des jeunes et des moins jeunes. Hein. Il y a de toutes catégories sociales. On y va. On va chez l'éleveur d'à côté. Et puis, on va l'aider à protéger son troupeau. Voilà, donc moi je trouve ça extraordinaire et je trouve qu'en France on parle pas assez des sujets positifs et des gens qui essayent de combler les fossés qui se créent de tous les côtés, entre autres entre la ruralité et le monde urbain.
Oui, on essaie toujours de s'opposer les uns aux autres. Alors est-ce que dans un avenir proche on pourrait revoir le loup s'installer en région parisienne et pourquoi pas de passage en bordure de nos routes forestières
à Chaville.
À Chaville, oui,
c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors il faut savoir déjà que le loup, il a été repéré en région parisienne déjà, puisqu'on en a retrouvé. D'ailleurs, c'est très étonnant. On a retrouvé en Fontainebleau un loup de l'Est, qui venait de l'Est, hein, parce que la recolonisation de la France se fait principalement par le Sud, par le Canis lupus et Italicus, mais... Il y a les loups qui sont aujourd'hui en Allemagne, ils ont pratiquement autant de loups que nous, peut-être un peu plus. Ils viennent des pays de l'Est, hein, donc c'est des loups qui sont un peu plus massifs. Et on a retrouvé un loup donc de l'Est, en forêt de Fontainebleau, qui est sûrement arrivé par le Nord, hein, parce qu'ils sont aujourd'hui pratiquement au Luxembourg, ils sont en Belgique, ils ont dû redescendre. Donc le loup, il est déjà en région parisienne, il faut le savoir. Alors après, est-ce qu'il va s'installer? C'est toute la question. Alors il y a beaucoup de débats chez les naturalistes. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Alors parce que on en parlera peut-être, mais j'ai une autre vie aussi parce que je suis très souvent dans les pays de l'Est. Je suis spécialiste au jour de la Roumanie, hein, je pense qu'on peut le dire ça. Voilà. Oui, oui, parce que je suis installé dans les Carpates. J'ai un chalet en zone à loup, ours, loup, lynx Et je passe beaucoup de temps avec les bergers. Enfin voilà, donc je suis aussi un naturaliste de terrain. En tout cas, pour que les loups se reproduisent...
Oui, il y a pas ce qu'il faut.
Pour que les loups se reproduisent, il faut quand même de la tranquillité. Il faut de l'eau à proximité. Il faut que la louve puisse avoir plusieurs tanières parce qu'en cas de danger, elle puisse les déplacer. Donc même en forêt de Fontainebleau, moi, j'y crois pas beaucoup. C'est très fréquenté. Il y a beaucoup de chiens qui traînent. Voilà, moi, j'y crois pas. Par contre, il y a beaucoup d'espèces gibier, ça, c'est sûr.
Qu'est-ce que ça mange quand ça mange pas des moutons?
Ah bah le loup c'est un opportuniste. Alors il va manger, il peut manger des chiens domestiques, hein. Des études qui ont été faites en Roumanie juste après Ceaușescu, il y a beaucoup de chiens, 30% de nourriture du loup c'était du chien. Il peut manger du lapin, du lièvre, hein, et dans les Carpates, il chasse beaucoup le lièvre. Et puis, il va surtout attraper du chevreuil. Et puis, quand ils sont en meute, ils peuvent s'attaquer au cerf. Ça, c'est... Mais il faut qu'il soit deux ou trois pour attraper un cerf. Par contre, le chevreuil, il va l'attraper tout seul. Ouais. Donc, et du sanglier, bien sûr. Du sanglier, bien sûr. Hein. En Italie, les loups italiens, je crois que ça fait 50% de leur alimentation. Hein. Donc, c'est énorme. Donc, en France, il a largement de quoi se nourrir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le voit apparaître tout d'un coup en Bretagne. En Charente-Maritime, sans l'avoir repéré, parce qu'il est passé sans attaquer un seul mouton. Voilà. Mais sans attaquer un seul animal domestique.
Il fuit les régions où il a l'habitude d'être, ou c'est quoi?
Alors,
Est-ce qu'il n'essaye pas de s'adapter?
Non, c'est des animaux qui dispersent très facilement, parce que c'est un animal très territorial. Une meute, elle a un territoire entre 100 km² et 200 km² qu'elle défend férocement, même contre ses congénères. On le voit dans le film très bien, d'ailleurs, sur la fin, parce qu'il nous montre bien ça, Jean-Michel Bertrand. Et donc, les jeunes loups subadultes, au mois de septembre, octobre, ils vont être chassés de la meute. Ils peuvent rester un an, deux ans, c'est rare, mais ils restent au moins un an avec la meute pour aider à élever les louveteaux. Et après, ils vont devoir disperser. Donc, ils s'en vont et ils vont chercher de nouveaux territoires. Voilà. Et les loups qu'on trouve erratiques en France, c'est des loups qui cherchent des nouveaux territoires. Donc ils peuvent faire, vous savez, un loup ça peut faire 100 km en une nuit, donc c'est un animal extraordinaire, le loup, hein. D'ailleurs certains éthologues disent qu'en fait le loup c'est l'animal qui nous ressemble le plus, beaucoup plus, parce qu'il vit en structure familiale,
surtout en politique.
Oui, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de prédateurs en politique, donc voilà. Donc moi je crois pas beaucoup trop à son installation. Par contre, qu'il y ait des loups erratiques qui passent, pas du tout.
Et en ce qui concerne donc la protection du loup, peux-tu nous parler des moyens d'action dont dispose Férus et ses partenaires face au lobby et surtout au pouvoir public qui sont complètement autistes, hein.
Alors, nous, ce qu'on essaye de faire connaître, c'est déjà bien connaître les données scientifiques. Par exemple, pour démontrer que le loup n'est pas dangereux pour l'homme, ça, on le sait bien. Voilà. Après, le sujet du loup en France, comme tous les grands prédateurs, c'est le sujet de l'élevage. En montagne, on sait à peu près protéger les troupeaux, maintenant on le sait. Oui. Après, en plaine, c'est un peu plus compliqué. Il faut avouer qu'en plaine, c'est plus compliqué parce que vous avez beaucoup de petits troupeaux domestiques qui sont dans des petites parcelles. Bon, la solution, c'est d'électrifier. Ça marche assez bien avec des panneaux solaires. Voilà. Oui. Donc nous, on essaye d'apporter des solutions, Férus. Et à travers notre programme Pastoral Loup, justement, on fait des expérimentations pour démontrer que ça fonctionne et qu'on peut vivre avec lui.
Oui, donc, pour démystifier un peu tout ça.
Et exactement. Après, Férus fait comme toutes les APN, on siège au groupe national loup, on fait du lobbying, et puis voilà, on essaye de s'opposer aux mesures extrêmes. Mais c'est vrai que la politique aujourd'hui en France sur le loup, de l'État, est catastrophique parce que en fait ils jouent tout sur le tir. Nous on demande le retour de l'effarouchement. Oui. Par exemple, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'un loup mort, c'est un loup qui n'apprend pas. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes sur une zone d'une meute, un loup attaque un troupeau, vous le butez, il va pas rentrer à la meute pour dire faut pas y aller.
Oui,
donc les autres vont revenir. Vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Tandis que si vous vous lui faites peur, soit avec des chiens, soit avec des moyens sonores, soit avec d'autres moyens, le loup il va rentrer, il va dire coï, là-bas faut pas y aller, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein.
Oui,
c'est un grand canidé, il apprend. Hein. C'est comme votre chien.
Bien sûr.
Vous l'empêchez d'aller à un endroit ou de faire des bêtises, il va comprendre. Le loup, c'est la même chose. Or, aujourd'hui, on a une politique de tir létaux. On tire presque 200 loups en France, hein, alors que sur 1000 loups, pratiquement, il n'y a aucune transmission. Et donc, ça fait exploser les meutes. Donc, on a une multiplication des meutes. Et en fait, on a une multiplication des attaques. Donc, nous, on dit que la politique actuelle de l'État est une politique en cul-de-sac. Mais on les tire parce que c'est des tirs politiques et que ça calme le monde de l'élevage. Quand je pense qu'on a entendu dire que c'était les loups qui mettaient en danger l'élevage ovin en France, bon, j'ai peut-être pas trop le temps de m'étaler là-dessus, mais ça nous fait rire, les spécialistes, ça nous fait rire.
Voilà. Bah, merci Bertrand Sicard. Pour finir, as-tu des projets personnels ou associatifs dont tu voudrais nous parler ?
Non, mais des projets personnels, j'en ai beaucoup. J'en ai déjà pour Férus, parce que c'est une association qui se développe beaucoup. On veut développer ce modèle pastoral-loup. On veut créer des équipes d'intervention d'urgence rapide, avec des éco-bénévoles qui pourraient venir très rapidement, en quelques heures, sur des zones sensibles. Voilà. Après, je suis aussi très intéressé par les vieilles forêts. Et j'ai un programme en Roumanie, mais ça c'est un autre sujet. Peut-être vous me réinviterez pour que je vous en parle.
Oui.
Alors si vous avez, si on a loupé la projection qui a eu lieu, la projection du film à Chaville, où est-ce que, comment les Chavillois et les Chavilloises peuvent faire pour pouvoir rattraper le temps perdu?
Alors ça va être un peu compliqué, sauf s'ils viennent à l'Assemblée Générale de Férus, qui est au mois d'avril.
Donc il n'y a pas de projection de prévue éventuellement ailleurs
Ah ben il y en a dans toute l'Île-de-France. Hein. Regardez,
voilà, c'est ça.
C'est un film qui est dans beaucoup de salles, il n'est pas qu'à Chaville. Alors nous on tourne beaucoup en ce moment parce qu'on commente beaucoup, on nous demande de venir commenter le film. Mais il est un peu partout
très
en Île-de-France, hein, voilà. Mais sinon, Jean-Michel Bertrand viendra à l'Assemblée Générale de Férus, qui va se passer cette année en Auvergne, où il projettera son film.
Il pourra venir aussi ici en parler. Hein, si
ah bah
souhaite,
alors
plaisir, hein.
Bah écoutez, c'est tout est faisable. Hein. Alors Jean-Michel est très pris. Aujourd'hui, c'est devenu une star. Mais il pourra venir et il a beaucoup de choses très très intéressantes à raconter.
Ça sera passionnant.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci beaucoup, merci Jean-Aubert, merci Bertrand Sicard. Je rappelle que vous êtes président de l'association Férus, association nationale de protection et de la conservation de l'ours, du loup et du lynx. Vous revenez ici quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous, chez Radio VCE. Tout de suite, on passe à Bande Annonce avec Alain de Frémont.
Avec Alain de Frémont.
Oui, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Le commandant Che Guevara, ou le Che, de son vrai nom Ernesto Rafael Guevara de la Serna, effectue sa deuxième visite officielle, la première date du 4 juillet 1963, à Alger, dans le contexte du séminaire économique de solidarité afro-asiatique. Ce séminaire durera du 22 au 27 février 1965. Il est alors ministre de l'Industrie à Cuba. L'île où le mouvement du 26 juillet, dirigé par Fidel Castro, a triomphé de la dictature de Ruben Fulgencio Batista en janvier 59. Il doit poursuivre sa lutte sur le front anti-impérialiste. Le Che se livre à de nouvelles batailles, celle de passer d'une économie capitaliste agraire à une économie socialiste industrielle à Cuba. Il est bien reconnu comme leader pour son engagement contre la politique étrangère des États-Unis dans le monde. Perçu comme une place centrale pour les mouvements de libération nationale, Alger est la capitale du seul pays africain à avoir acquis l'indépendance de grandes luttes, soit armées et diplomatiques. La guerre de libération est une référence majeure en Afrique. Elle a forgé la conscience nationale en Algérie. Elle a même porté le combat pour l'indépendance en métropole française. elle constitue aussi un des facteurs de crise de la 4e République française, ce qui oblige l'administration coloniale à négocier la paix et l'autodétermination algérienne jusqu'à la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962. Ce n'est pas moi qui parle, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est le journaliste algérien Mohamed Redouane. La solidarité internationale. En conclusion de son discours devant les participants au séminaire, le Tché salue ce combat. Peu de scènes sont aussi symboliques qu'Alger, l'une des capitales de la liberté les plus héroïques, pour une telle déclaration. Que l'admirable peuple algérien, trempé comme peu de peuples l'ont été dans les souffrances de l'indépendance sous la direction de son parti, nous inspire dans cette lutte. Pourtant, l'orateur dénonce la coexistence pacifique, celle prônée par l'Union soviétique, sans la nommer. Et il proclame « Les pays socialistes ont le devoir moral de liquider leur complicité tacite avec les pays exploiteurs de l'Ouest ». En s'adressant aux délégations asiatiques et africaines, il annonce que la construction d'une société nouvelle passe par la réalisation commune d'un ensemble de mesures. Le fait est que le développement des pays sous-développés doit être financé par les pays socialistes, sachant aussi qu'il est impossible d'exiger la confiance des pays socialistes lorsqu'on joue à mettre en balance capitalisme et socialisme et qu'on s'applique à utiliser ces deux forces et leur antagonisme afin de tirer avantage de leur rivalité. Pour asseoir le socialisme, le Tché voit aussi une autre condition, un changement dans les consciences qui soit la source d'une nouvelle attitude fraternelle envers l'humanité. Un changement qui s'opère au niveau individuel, mais aussi à une échelle collective dans les sociétés en lutte pour le socialisme. L'une des aspirations du Tché est l'émergence d'un homme nouveau, celui qui participe directement à l'édification de la nouvelle société. À son retour à La Havane, en mars 1965, le Tché renonce à ses fonctions et à sa condition de citoyen cubain. Il préfère reprendre le chemin de la guérilla, affirmant dans sa lettre à Fidel Castro « D'autres terres du monde réclament la contribution de mes modestes efforts. Je peux faire ce qui t'est refusé par tes responsabilités à la tête de Cuba et l'air est venu pour nous de nous séparer. » Fondateur de l'Armée de Libération Nationale de la Bolivie, Ernesto Che Guevara décédera le dimanche 8 octobre 1967 à 13h10, exécuté par des soldats boliviens dans la petite école du village de La Higuera, proche de Chuquisaca.
Merci beaucoup Alain de Frémont. On va passer tout de suite à la dernière chronique à portée de parole avec Monique Couteau et Marc Salin comme invités.
À portée de parole avec Diane Lafranc.
Oui, donc Marc, bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton association Solidarité Nouvelle pour le logement ?
Bonjour Monique, et merci pour l'accueil. Alors, je vais présenter donc SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement d'Île-de-France. L'histoire d'abord, l'association a été créée en 1988 en Essonne, par un groupe de citoyens qui trouvaient indigne que des personnes vivent à la rue. Ils ont acheté un premier bâtiment qu'ils ont rénové pour accueillir ces personnes en grande précarité. Et petit à petit, l'association s'est développée sur toute l'Île-de-France. Malheureusement, depuis 1988, la situation n'a fait qu'empirer dans le logement. Le mal-logement, c'est 4 millions de mal-logés en France, dont 1,2 million de personnes sur l'Île-de-France, qui vivent dans des logements précaires, surpeuplés, indignes et parfois à la rue. La conviction des créateurs de l'association était qu'avoir un toit de manière durable est un préalable nécessaire pour trouver sa place dans la société. Solidarité Nouvelle pour le Logement est une association d'insertion et son but est de créer des logements passerelles par achat, réhabilitation ou mise à disposition par un propriétaire privé. SNL loue à des personnes en difficulté à un tarif accessible avec un bail d'un an renouvelable. Chaque famille est accompagnée par un travailleur social salarié de l'association et par deux bénévoles qui assurent un accompagnement de proximité, une écoute et un soutien. Les liens de confiance ainsi tissés favorisent une intégration locale. SNL s'engage à accompagner chaque famille à l'accès à un logement social durable. Généralement, au bout de 3 ans, les familles rentrent dans le logement social traditionnel. SNL se développe principalement sur les départements de l'Île-de-France. Son siège social se trouve à Paris et il existe une association départementale, donc 7 associations départementales, ainsi qu'une coopérative foncière qui s'appelle SNL Prologue, qui détient l'ensemble des logements. Quelques chiffres sur l'Île-de-France. Logement actif actuellement, 1341 logements. Personnes présentes dans le logement, 3087 personnes. Depuis la création en 88, 13 830 personnes ont été accueillies. Le financement. L'association est reconnue d'utilité publique et se développe grâce notamment à ses donateurs qui adhèrent à notre projet de soutien des personnes en situation de précarité en permettant notamment la création de logements d'insertion, l'accompagnement des personnes et la mise en œuvre de projets culturels et d'animation. Une autre partie provient des subventions de l'État, de la région, des communes et de la Fondation Abbé Pierre.
Sur Chaville, ton association, votre association agit depuis combien d'années? Il y a combien de logements? Comment ça se passe pour les familles? On a déjà un petit peu parlé. Et quels sont les besoins de SNL aujourd'hui sur Chaville?
Bien, donc un petit point d'abord sur le siège donc de départemental, puisqu'on a une association départementale. Sur le département des Hauts-de-Seine, on a actuellement 74 logements en service dans 18 communes du département. Et nous créons à peu près 2 à 4 logements par an. Plus de 275 ménages accueillis, dont 200 relogés depuis 2002. Ensuite, nous travaillons en groupes locaux. Donc actuellement, nous avons 13 groupes locaux de solidarité, constitués de bénévoles accompagnant les familles sur leur commune. Actuellement, donc 135 bénévoles actifs, 500 donateurs, 12 administrateurs et 7 salariés. Pour Chaville, et le groupe a été créé en 2005 grâce à la volonté de quelques citoyens et de la mise en service de 2 petits logements en 2006. Depuis, la recherche de logements a continué. Nous gérons à ce jour 9 logements et bientôt un 10e sur la commune de Ville-d'Avray. L'action des bénévoles est très importante. Le développement de l'association locale dépend complètement des bénévoles. En priorité, bien sûr, pour l'accompagnement de la famille locataire en coopération avec les travailleurs sociaux. Ensuite, un point très important, c'est participer à la collecte de dons qui permet de développer et faire vivre l'association. Ensuite, organiser des événements, développer au sein des animations au sein du GLS. Participer aussi, on recherche aussi des bénévoles pour participer à l'entretien courant des logements en fonction de ses capacités. Le point aussi très important pour se développer, c'est la recherche de nouveaux logements. Ensuite, le dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est représenter l'association et témoigner auprès des élus locaux, des collectifs de quartier et des copropriétés ou loges locataires. Particularité à Chaville, nous gérons en plus, pour aider nos locataires à s'installer, un local en partenariat avec le Secours catholique où nous stockons des meubles, de l'électroménager qui nous ont été donnés, de manière à équiper les familles quand elles arrivent dans nos logements, car en général, elles arrivent juste avec quelques valises. Le dernier point que je souhaite aborder, pour nous très important, c'est de nouveaux bénévoles, pour renouveler aussi nos bénévoles. Nous avons donc, comme je l'ai dit, un nouveau logement en prévision dans la fin du premier semestre sur la commune de Ville-d'Avray. Donc nous recherchons, si possible, 2 bénévoles. Et nous avons peut-être une chance de réacquérir un nouveau logement sur Chaville. Donc aussi, nous aimerions avoir 2 nouveaux bénévoles. Merci de votre écoute. À très bientôt.
Merci à toi, Marc. Rappelez aussi, peut-être, à un moment donné, on avait fait un appel pour les associations en termes de matériel. Justement, oui. Tu parlais du local. Donc, est-ce qu'il y a toujours ce besoin de matériel aussi?
Oui, les associations locales ont besoin toujours de ce matériel. On a besoin toujours de machines à laver, de frigos, de petits meubles, de lits.
Ça donne assez facilement. Comment fonctionne le service si demain, je dis n'importe quoi, une personne isolée de 70 ans veut donner sa commode, comment elle fait?
Elle nous joint, donc soit le Secours catholique, soit SNL.
D'accord, donc vous avez un service.
Pour l'instant, je réponds, donc, et nous allons chercher les meubles chez les personnes. Mais il faut. Bien sûr, un point sur lequel j'insiste, il ne faut pas nous donner n'importe quoi.
Que ça soit
propre du luxe, et utilisable.
Propre et bon état, oui, d'accord.
Ok. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Merci Monique. Merci Marc Salin. Je rappelle que vous êtes donc chavillois et animateur du groupe local de solidarité de Chaville. On peut vous joindre au 06 88 90 08 02 ou par Minitel. par mail, salin, S-A-L-I-N, point marc, arrobase, orange, point fr. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette nouvelle émission. On se retrouve évidemment lundi prochain, 8h, c'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.